Alors Renaud, Agnès Gabory, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour à tous, nous sommes Agnès
et Renaud
de Gabory. Voilà, nous nous sommes mariés il y a 41 ans et depuis 39 ans, nous cheminons avec bonheur au sein d'une équipe Notre-Dame. Et nous faisons partie de l'équipe responsable des équipes Notre-Dame pour la France, le Luxembourg et la Suisse. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler du couple et de la prière. Alors, nous parlerons dans une première partie du sacrement de mariage et de son lien avec la prière conjugale. Dans une deuxième partie, nous parlerons de la prière conjugale elle-même. Et enfin, dans une troisième partie, nous aborderons les autres formes de prière qui nourrissent la vie spirituelle du couple.
Mais auparavant, nous souhaiterions faire quelques rappels et d'abord redire qui est le Père Caffarel que nous allons beaucoup citer. C'est lui qui a fondé en 1939 le mouvement des équipes Notre-Dame avec quatre jeunes couples voulant vivre leur amour à la lumière de leur foi. C'est lui, le Père Caffarel, qui révèle ainsi la spiritualité conjugale en l'enrichissant de tout son apport sur la bonne nouvelle et la grandeur du sacrement de mariage. Alors un petit rappel sur la spiritualité conjugale qui est le sujet de ces émissions mensuelles et dont les équipes Notre-Dame nous ont permis de découvrir la richesse pour notre couple. La spiritualité conjugale. Les couples sont appelés à s'appuyer sur leur sacrement de mariage pour sanctifier leur vie conjugale et rendre présent le Christ dans tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent, et en ouvrant ensemble leurs âmes et sa présence dans leur couple. Et qu'en dit le Père Caffarel ?
Voilà ce qu'il dit. Il s'agit de christianiser toute la vie familiale, rechercher ce qu'on appelle volontiers un style chrétien du couple, le style chrétien des rapports entre les personnes, le style chrétien du cadre de la maison, des repas, des dépenses, le style chrétien des activités quotidiennes. Comment faire que tout cela soit chrétien, apparaisse chrétien, que tout cela resplendisse de la grâce du Christ? Il y a un style chrétien des jours, un style chrétien des grands événements. Vivre chrétiennement ces événements, et tout cela afin que Dieu soit glorifié en toutes choses.
Enfin, une précaution oratoire, et elle découle de ce qui précède. Chaque fois que nous parlerons de couple, d'époux ou de conjoint, il s'agit de couples chrétiens unis par le sacrement de mariage.
Voilà, maintenant nous abordons enfin notre sujet, le couple et la prière, cette prière qui nourrit la vie du couple et d'une autre en particulier. Voilà ce que dit le Père Caffarel au sujet de cette prière.
La prière conjugale est la clé du trésor du sacrement de mariage.
La prière conjugale est la clé du trésor du sacrement de mariage. Alors, si vous le voulez bien, partons donc du sacrement de mariage. Et rappelons-nous que ce sacrement est unique en son genre, puisqu'il a pour sujet non pas un individu, mais un couple. C'est le Christ qui conclut un pacte, une alliance, au sens biblique du mot, entre lui et ce couple. Ce que Yahvé disait autrefois,
« Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. »
Le Christ, à son tour, le dit au couple. Donc d'abord, dans le sacrement de mariage, c'est le Christ lui-même qui s'engage avec les époux et qui demeure au cœur de leur couple. C'est donc en couple que les époux vont recevoir en plénitude ce trésor dont parle le Père Caffarel. Ce trésor, c'est un trésor de grâce, des grâces particulières qui sont adaptées à la finalité du sacrement de mariage, des grâces, c'est-à-dire des faveurs spéciales, des dons gratuits de Dieu pour vivre leur mission conjugale. C'est le Christ lui-même qui se donne à eux et qui demeure au cœur de leur couple.
Tu viens de parler de mission conjugale. Et quelle est-elle?
Eh bien, la vocation du couple, sa mission, c'est d'exprimer le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Église. Autrement dit, c'est que l'amour mutuel de l'homme et de la femme devienne image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'humanité. Cette mission, elle est double. C'est d'abord une mission cultuelle, c'est-à-dire rendre un culte à Dieu en s'unissant à lui par la prière et en s'offrant à lui, et une mission apostolique, rayonner l'amour du Christ à l'intérieur et à l'extérieur du couple.
Tu as aussi parlé de grâces particulières pour cette mission. Quelles sont-elles, ces grâces?
Alors voilà ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. La grâce propre du sacrement de mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble, et par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et dans l'éducation des enfants. Il nous semble donc qu'un des premiers objectifs de la prière conjugale, c'est celui-là. Ensemble, puiser dans le trésor de grâce du sacrement. Demander à Dieu de nous donner ses grâces en abondance, jour après jour, pour vivre ce qui nous est demandé. Demander ensemble ses grâces, parce qu'on croit profondément à la puissance de l'aide de Dieu, à la force de son amour pour la construction de notre vie à deux avec lui.
Le sacrement de mariage n'est pas seulement le don du Christ aux époux, il est aussi le don, la consécration du couple au Christ. Désormais, dans ce couple, le Christ est présent. Et c'est pourquoi Saint Jean Chrysostome l'appelle une église en réduction. Quand le Christ unit par son sacrement un homme et une femme, c'est pour fonder une petite cellule d'église, un sanctuaire, où lui, le Christ, pourra célébrer avec ce couple, par ce couple, le grand culte filial de louange, d'adoration et d'intercession qu'il est venu instaurer sur terre.
C'est donc cela la première mission du couple chrétien?
Oui. Il s'agit bien de rendre un culte à Dieu, mission dont la prière conjugale est le temps fort. Ainsi, quand mari et femme prient ensemble,
c'est la prière de son fils bien-aimé que le Père des cieux entend, parce que dans leur cœur, l'Esprit du Christ inspire leurs sentiments.
Le Christ, lié au couple, aspire à rendre grâce à son Père, à intercéder avec et par les époux pour le monde entier. Si je récapitule, accueillir en plénitude les grâces de notre sacrement de mariage, faire de notre couple un sanctuaire, c'est bien en nous mettant ensemble, mari et femme, sous son regard, que le Christ nous comblera de ses grâces, nous disposera à l'écouter, à lui répondre, à nous offrir à lui, et que sa prière deviendra la nôtre.
Voilà, maintenant nous arrivons à notre deuxième partie, la prière conjugale. Tous les couples chrétiens souhaitent atteindre une vraie plénitude dans leur relation conjugale. Cette vraie plénitude, elle passe par la communion totale de tout leur être. La communion de leur corps, la communion de leur esprit et la communion de leur âme. La communion des corps, elle passe par l'union physique. Celle des esprits, elle passe par une profonde amitié et le don réciproque de chacun des conjoints. Mais l'âme, quant à elle, c'est bien le domaine de Dieu. Elle est le lieu conçu pour être habité par Dieu. Donc, les époux ne peuvent pas unir eux-mêmes leurs âmes. En revanche, ils peuvent les ouvrir ensemble à la présence du Seigneur. Ainsi, c'est lui qui unira leurs âmes.
Et qu'est-ce qui va permettre de trouver cette plénitude?
Eh bien, pour créer une vraie communion d'âmes entre les époux dans la durée, pour découvrir toute la grandeur et la beauté de l'autre, pour rencontrer aussi l'image de Dieu en lui ou en elle, Le chemin le plus efficace, c'est bien celui de la prière conjugale. Mais pour arriver à cela, il faut du temps. C'est un cheminement de progression spirituelle, l'objectif de toute une vie. Quand les époux apprennent à être unis dans l'âme, même si un jour ils se trouvent un peu fragiles, divisés dans leur tendresse, dans leurs opinions, par des épreuves, cette communion des âmes restera un lien inébranlable. Elle deviendra le lieu le plus intime de leur complicité. Pourquoi ? Parce que Dieu y habitera et y demeurera comme il s'y est engagé.
Il nous dit, dans Saint Jean au chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. »
Voilà, donc la prière conjugale est bien le temps fort. Ce culte du couple est le pilier de la spiritualité conjugale. Alors, cette prière conjugale, qu'est-ce qu'elle est ?
Eh bien, c'est le moment de leur journée où les époux ouvrent ensemble leur âme à la présence du Seigneur pour lui dire leur amour et se laisser aimer par lui, et où le Seigneur unit leurs âmes dans ce même amour.
Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle forme peut prendre la prière conjugale ?
Eh bien, autant de formes que de couples qui la pratiquent, et même encore plus, car pour chaque couple, il peut y avoir plusieurs formes de prière conjugale au cours de leur vie. Prier ensemble, cela s'apprend. Cela s'apprend par la pratique. Il faut se lancer. Et cela évolue tout au long de leur vie commune, en fonction des circonstances, des événements marquants de leur vie et du cheminement spirituel de chacun et du couple.
Et cette prière, comment peut-on l'exprimer ?
Par la louange, l'adoration, par la prière d'intercession pour nous, pour nos familles, pour nos proches, aux intentions de notre communauté paroissiale et de l'Église. Nous pouvons l'exprimer par la lecture et la méditation de la parole, par des prières de la tradition chrétienne, en nous unissant à la prière de l'Église. Mais ce n'est pas la forme qui a le plus d'importance. C'est bien la volonté de prier à Dieu, à deux, pardon, et son intention profonde. Notre prière conjugale, elle s'adresse à Dieu, elle est pour lui et elle n'est pas pour nous. Nous reviendrons dans quelques minutes sur cette difficulté. Il s'agit bien de louer Dieu ensemble et de chercher sa volonté sur notre couple. Catherine et Étienne, équipiers Notre-Dame, auxquels nous avons demandé ce qu'était pour eux la prière conjugale, nous ont répondu.
Pour nous, la prière conjugale, c'est finalement notre regard, notre cœur tourné vers Jésus. C'est la traduction de notre amour pour Jésus et de notre volonté de le suivre.
Pour que sa prière conjugale soit vraiment un culte rendu au Christ, quelle disposition d'âme ce couple doit-il apporter ?
Alors, première disposition, former une communauté de corps et de cœur pour signifier l'union des âmes. Que l'union visible des époux soit le signe de leur union d'âme, qu'ils soient un. La communauté de corps, par une proximité physique, est bien sûr nécessaire pour deux raisons. D'abord, parce que le corps participe de manière active à la prière, et ensuite, parce que les couples apprécient cette proximité physique qui favorise la communauté de cœur et permet une plus grande intimité spirituelle. Chaque couple de trouver l'attitude corporelle qui favorisera cette communauté de corps et donc cette intimité spirituelle. Ensuite, la communauté de cœur. Est-ce que nous pouvons être réellement présents l'un à l'autre si nous avons quelques ressentiments l'un envers l'autre ? Pour prier ensemble, il faut que nos cœurs soient en paix l'un envers l'autre. Le Christ insiste beaucoup sur cette paix intérieure. Et voilà ce qu'il nous dit en Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24.
Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande.
Pour chaque couple uni par le sacrement de mariage, notre premier frère n'est-il pas notre conjoint? Alors on pourrait transposer cette phrase de Matthieu pour les couples. Quand tu viens prier, me dire ton amour et te laisser aimer, si tu te souviens que ton conjoint a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton conjoint. Cette réconciliation, elle implique que l'un des deux se lance à l'eau et demande pardon pour une parole blessante ou une attitude désobligeante. Quelle merveille si cette demande de pardon de la part de l'un des conjoints est suivie d'une demande réciproque de la part de l'autre, qui pourrait prendre la forme suivante. Pardonne-moi à ton tour pour ne pas t'avoir suffisamment aimé tel que tu étais à ce moment-là. Donc cette paix intérieure est importante, qu'à l'heure de la prière conjugale cesse tout dissentiment et que la paix entre les conjoints soit rétablie. Qu'ils se donnent, pourquoi pas, le baiser de paix.
Deuxième disposition, que mari et femme renouvellent leur foi en ce pacte que le Christ a conclu avec eux, pacte de sa présence à leur couple. Dans la prière conjugale, mari et femme s'adressent au Seigneur à haute voix en présence l'un de l'autre. Les époux chrétiens vivent de ce lien spécifique et sacré depuis le oui qu'ils se sont donné et que le Seigneur a béni le jour de leur mariage. Leur prière conjugale est l'expression quotidienne de ce oui. La fidélité à cette prière conjugale quotidienne leur fait prendre conscience que le Christ est impatient de louer le Père par eux qui se sont mis à son service.
Enfin, une troisième disposition, qu'ils écoutent le Christ ensemble. Comment en effet peut-on prier comme le Christ et en union avec lui si l'on n'a pas d'abord cherché à comprendre ses pensées, ses sentiments, ses intentions pour les épouser et les exprimer à Dieu? Alors pour écouter le Christ, le Père Caffarel nous encourage à lire la parole de Dieu ensemble.
Écouter le Christ, dit-il, cela veut dire commencer cette prière par une lecture de la Bible, puis se taire et méditer ensemble. Ensuite, rechercher la pensée du Seigneur sur la journée écoulée ou celle qui commence. Alors et alors seulement, l'ayant écoutée et comprise, parler à Dieu, lui parler spontanément à haute voix, lui exprimer nos pensées et nos sentiments avec la simplicité de l'enfant s'adressant à ses parents.
Pour résumer donc, les dispositions nécessaires à la prière conjugale résident dans l'union des corps et des cœurs, la foi au Christ présent et l'attention aux pensées et aux volontés du Christ. Alors tout cela en théorie semble facile. Comment alors se fait-il que tant de couples négligent ou abandonnent la prière conjugale? Quelles sont les difficultés de cette prière conjugale et surtout comment les surmonter?
Et une première, certains tempéraments éprouvent plus de difficultés que d'autres à exprimer leur vie intérieure, par pudeur de leurs sentiments, par souci de garder son jardin secret, ou par une crainte inavouée de dévoiler son cœur et son âme à son conjoint. Eh bien, avec le temps et la fidélité à ce temps de prière, ils y arriveront. D'autres invoquent une différence de sensibilité spirituelle. Le Père Caffarel nous éclaire à ce sujet.
Ces divergences spirituelles, issues de formations ou d'éducations différentes, il faut les dépasser, sans essayer de les niveler. Des spiritualités différentes qui s'accordent peuvent, au contraire, faire une harmonie plus riche qu'une absolue identité de vue spirituelle chez les époux.
Une troisième difficulté. Pour beaucoup, c'est le manque de volonté qui est en cause. Le père Caffarel disait
« L'essentiel de la prière, c'est la volonté. Vouloir prier, c'est prier. »
Bien, ce qui vaut pour la prière en général vaut aussi pour la prière conjugale. Pour démarrer, il suffit de vouloir prier ensemble. Et si nous ne le voulons pas encore, nous pouvons toujours demander au Seigneur, chacun dans notre prière personnelle, de faire grandir en nous le désir de prier ensemble. Et pour tenir, il faut aussi de la persévérance, savoir exercer sa volonté dans le temps. L'objectif est bien de mettre le Seigneur au cœur de notre couple avec confiance et fidélité.
Enfin, une quatrième difficulté, qui est très répandue, presque tous invoquent le manque de temps. Voilà ce que le père Caffarel dit à ce propos.
Vous prenez le temps de manger 3 fois par jour et vous ne prenez pas le temps de prier quotidiennement, alors que la nourriture est certes essentielle, mais la nourriture spirituelle l'est aussi.
Eh oui, la prière conjugale n'est-elle pas aussi vitale que de se nourrir? Si nous attendons d'avoir du temps libre, nous n'y arriverons jamais. Il nous faut choisir ensemble le moment le plus favorable de la journée, prendre un rendez-vous fixe à ce moment-là et nous y tenir. Et puis un lieu favorable aussi soutiendra notre fidélité à ce rendez-vous. Enfin, une dernière difficulté, certains parlent d'une déception, celle de ne pas obtenir rapidement des bienfaits pour leur couple. Nous y reviendrons dans quelques instants. Si nous attendons en premier des bienfaits pour notre couple, n'est-ce pas notre disposition intérieure qui est en cause? Notre prière conjugale n'est-elle pas alors pour nous au lieu d'être pour Dieu? Eh bien, chers auditeurs, ceux qui ont assez de foi et de courage pour triompher de ces difficultés ne tarderont pas à en expérimenter les bienfaits.
Eh bien, maintenant, parlons des bienfaits de la prière conjugale. Quand les chrétiens prient, c'est d'abord pour honorer Dieu. Il n'empêche que nombreux et précieux sont les bienfaits de cette prière du couple, et à cela rien de surprenant. Le Christ n'a-t-il pas dit que si l'on cherche d'abord le royaume de Dieu, tout le reste est donné par surcroît? Ces bienfaits ne sont pas tous perceptibles ou mesurables, mais beaucoup le sont. Premier bienfait, une profonde connaissance réciproque des époux. Nous vous livrons le témoignage d'un foyer adressé au père Caffarel.
Nous avions prié pour louer Dieu, et Dieu nous a fait du coup un magnifique cadeau. En formulant à haute voix notre prière intime, nous nous sommes communiqués l'un à l'autre le fond même de notre âme et la plus secrète impulsion de notre vie intérieure. Il suffit d'avoir pratiqué tant soit peu la prière conjugale pour pouvoir dire que grâce à elle, souvent après de nombreuses années de mariage, on découvre l'âme de son conjoint, ainsi que les mouvements et les aspirations de sa vie intérieure.
Un deuxième bienfait proche du précédent, la prière conjugale se présente comme un des grands facteurs de l'unité spirituelle et même de l'unité tout court entre époux. Un jeune couple écrivait au père Caffarel.
C'est elle, la prière conjugale, qui a forgé notre âme commune.
Et le père Caffarel d'ajouter.
Beaucoup de couples plus âgés pourraient en dire autant, et je suis convaincue pour ma part qu'une certaine qualité d'union, d'intimité entre les époux, ne sera jamais atteinte par ceux qui omettent sa pratique.
Troisième bienfait de la prière conjugale, nous l'avons évoqué lorsque nous avons parlé des dispositions, on ne peut faire l'unité sans mettre fin aux discordes. Écoutons plutôt ce témoignage.
Nous allions être séparés pour plusieurs semaines et peu de temps avant le départ, nous nous étions disputés. L'atmosphère était lourde. Nous sentions que cette heure allait être inexorablement gâchée par l'orgueil qui nous empêchait de faire le premier pas. L'un de nous, cependant, propose de nous agenouiller. Alors, devant Dieu, il a bien fallu se dépouiller de sa vanité et ne pas continuer à jouer au plus fort. En sa présence, nous nous sommes demandé pardon. Et en priant chacun personnellement à haute voix, nous avons eu ce soir-là un échange d'une vérité et d'une intensité jusqu'alors insoupçonnées.
Un quatrième bienfait de la prière conjugale. La prière conjugale est le grand stimulant de la vie chrétienne personnelle de chacun des conjoints, et nous y reviendrons dans la troisième partie. Un cinquième bienfait de la prière conjugale, l'ouverture au monde et la fécondité spirituelle du couple. Par l'intercession de notre prière conjugale aux intentions de l'Église, nous ouvrons notre cœur et notre couple au monde qui nous entoure. Alors où en sommes-nous ? Imprégnés des dispositions d'âme dont le couple doit être habité pour que sa prière conjugale soit réellement un culte rendu au Christ, conscient des difficultés et des bienfaits de la prière conjugale, il suffit alors à ce couple d'oser la prière conjugale et de se lancer, nous pouvons en témoigner personnellement.
Oui, c'est vrai. Un prêtre ami nous a beaucoup aidés au début de notre mariage à oser la prière conjugale. Voilà ce qu'il nous a dit. Commencez tout simplement par faire lentement un signe de croix, puis prenez un temps de silence pour vous mettre en présence du Seigneur, puis dites ensemble, non moins lentement et du plus profond de votre âme, le Notre Père. Cette prière communautaire enseignée et confiée par le Christ à son Église et, on peut le dire, au couple en particulier, puisqu'ils sont la plus petite cellule d'Église. Et voilà, c'est comme cela que nous nous sommes mis en route.
Eh bien, si la prière conjugale est le ciment de la vie spirituelle du couple, il y a d'autres formes de prière, d'autres temps forts spirituels qui nourrissent aussi cette vie, et ce sera notre troisième partie.
Alors, nous allons parler brièvement de l'oraison, de la parole de Dieu, de la participation à l'Eucharistie et enfin de la prière familiale. L'oraison, comme vous le savez, c'est une prière personnelle. C'est ce moment privilégié de cœur à cœur avec Dieu, pour lui parler, l'écouter, comprendre sa volonté sur moi et y adhérer. Alors comment cette prière peut-elle enrichir le couple ? Eh bien, nous croyons vraiment que l'oraison pratiquée jour après jour nous amène à changer notre regard, et en premier lieu notre regard sur notre conjoint, à le voir avec le regard de Dieu, un regard miséricordieux et bienveillant. Oui, c'est là que nous apprenons à dépasser notre égoïsme pour recevoir et aimer notre conjoint comme le Christ. Alors, loin de voir dans le Christ un rival, chacun des époux peut se réjouir de cette relation unique de son conjoint avec le Christ. Voilà ce que dit le père Caffarel.
Si pour un temps, votre compagnon de route vous quitte, pour s'entretenir avec le Christ, soyez sans crainte. Il vous reviendra le regard plus limpide et le cœur plus fort.
Les époux peuvent même s'entraider en ménageant à l'autre des moments et des lieux qui lui permettront ce cœur à cœur avec le Christ.
Eh bien, personnellement, nous nous encourageons en vivant l'oraison au même moment. Et parfois, il nous arrive d'échanger sur l'évangile du jour que nous avons lu et médité chacun de notre côté. Nous partageons sur ce que chacun a compris de la volonté de Dieu sur lui au travers de cet évangile. Nous partageons éventuellement sur les résolutions que l'un ou l'autre a prises. Et cet échange est très bénéfique et enrichissant pour notre couple.
Voilà, maintenant nous voulons reparler de la parole de Dieu que nous avons déjà évoquée un petit peu avant, cette parole de Dieu qui éclaire toute la vie conjugale. Cette prière, cette parole de Dieu, la fréquentation peut se faire en priant la liturgie des heures. Certains couples aiment prier avec les psaumes pour exprimer leurs sentiments au Seigneur et prier dans la communion de toute l'Église. C'est ce que nous témoignent nos amis équipiers Marie-Catherine et André, André est diacre permanent.
Depuis quelques années, alors qu'auparavant je disais seul la prière des heures, nous ressentons la nécessité de prier ensemble, les laudes et les vêpres. Les psaumes, s'ils expriment tout ce que nous vivons dans notre quotidien, la louange, la joie, mais aussi nos difficultés, nos révoltes, nos cris de douleur, eh bien ces psaumes y finissent tous par l'espérance. Et si nous sommes en colère, si nous sommes en désaccord, la prière conjugale est parfois bien difficile, mais par la prière des heures, les mots nous sont donnés pour prier malgré tout. C'est un vrai cadeau qui nous est fait.
Un autre temps fort vécu en couple, c'est la participation à l'Eucharistie. Voilà ce que dit le père Caparel.
Le mariage, c'est l'admirable invention du Christ pour que l'Eucharistie soit vécue à deux.
Oui, c'est vrai. Vivre en couple la célébration de l'Eucharistie fortifie notre unité et nous rend plus capables d'un amour renouvelé. Ce qui est très fort, ce sont deux temps particulièrement, l'offertoire et la communion. Pendant l'offertoire, nous nous offrons ensemble l'un et l'autre. Nous offrons tout ce que nous avons vécu, petite ou grande chose, depuis la dernière Eucharistie. Nous offrons tout ce qui fait notre vie, afin que tout cela soit porté par l'offrande du Christ qui est l'offrande parfaite. Enfin, dans la communion, nous recevons ensemble le corps du Christ, celui qui a fait alliance avec nous, celui qui a donné sa vie pour nous. Alors quoi de plus fort pour des époux? Nous renouvelons ainsi notre alliance avec lui. Et avec notre conjoint, nous devenons ensemble un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Voici comment le vivent un autre couple ami, Brigitte et Gilles.
Après avoir reçu la communion, nous nous asseyons côte à côte, nos mains entrelacées, nos têtes qui se touchent. Nous nous présentons ainsi ensemble devant le Christ et lui offrons notre couple. Nous vivons là un moment privilégié d'intimité à trois dans une prière profonde. Le sacrement que nous venons de recevoir est opérant. Notre couple s'en trouve vivifié. Ce geste d'intimité spirituelle, nous nous le sommes approprié comme un des éléments qui permet à l'Esprit Saint de guider notre couple sur le chemin de la sainteté.
Voilà, enfin, un petit mot sur la prière familiale.
Lorsque les époux deviennent parents, la prière conjugale, sans disparaître, va tout naturellement s'épanouir en prière familiale. C'est comme si la prière conjugale se saisissait des enfants pour louer le Seigneur, pour le remercier, pour lui adresser des demandes. La prière familiale est source d'unité familiale, bien plus. Elle fait des parents et des enfants des frères devant Dieu.
Eh bien, en conclusion, nous voudrions redire à quel point la prière est vitale pour le couple. Et voici les mots de nos amis Catherine et Étienne pour dire cela.
Quelle que soit la forme et la pauvreté de la prière conjugale, cela nous dépasse, tout comme l'amour de Dieu pour nous. Surabondant et fécond. C'est le Christ aux noces de Cana qui transforme l'eau de nos pauvres prières en vin voluptueux de notre unité. Ne nous privons pas de cette source vive.
Oui, on parle bien de fécondité. La prière conjugale non seulement fait entrer les époux dans la communion avec le Christ, mais elle les dispose, elle les prépare, elle les accompagne pour le deuxième volet de leur mission de couple, la mission apostolique. Mais ça, c'est un autre sujet. Et nous laissons le mot de la fin au père Caparel.
Si tous les couples chrétiens étaient convaincus de l'importance de la prière conjugale, si dans tous ces couples, la prière conjugale était vivante,
il y aurait dans le monde un prodigieux accroissement de joie, d'amour et de grâce. Voilà, nous sommes prêts pour les questions.
Voilà, eh bien écoutez, nous allons tout de suite accueillir Jean-Pierre et Régine. Jean-Pierre et Régine, vous êtes à l'antenne.
Oui, bonjour à tous et bonjour et un immense merci à Agnès et Renaud. Nous avons écouté avec une attention soutenue leurs propos et nous nous réjouissons de toutes ces perles qu'ils nous ont données. Ça donne vraiment envie de prier et ça donne vraiment envie de rencontrer les équipes Notre-Dame. La question qui nous vient concerne la présence de la Vierge Marie dans nos prières, qui est souvent plutôt une relation personnelle. Et nous aimerions avoir leurs sentiments sur comment vivre effectivement la place de Marie dans la prière conjugale.
Oui, c'est vrai. Et notre mouvement s'appelle Équipe Notre-Dame. Nous sommes donc sous la protection de Marie. Alors, je dirais que si le Christ est bien le centre de la vie spirituelle des époux, c'est Marie qui est le meilleur chemin pour les conduire au Christ. Et pourquoi ? Parce que, comme les époux, Marie, un jour, a dit oui. Marie, par son oui, qui est donné le jour de l'Annonciation, Marie est un exemple parfait de disponibilité et de docilité à la volonté de Dieu. Donc pour nous, époux chrétiens, nous sommes engagés par notre premier oui, celui de notre mariage, c'est bien Marie, par son premier oui et par tous les autres oui qui ont suivi dans sa vie, qui nous montre le chemin pour redire notre oui chaque jour. Le oui à notre conjoint, bien sûr, mais aussi le oui à Dieu pour recevoir sa vie et la faire rayonner. Et alors, je dirais que pour nous, équipiers Notre-Dame, il y a une prière qui nous unit tous, c'est la prière du Magnificat que nous aimons bien réciter à la fin de notre prière conjugale, le Magnificat, je dirais, c'est un cri d'amour, le cri d'amour de Marie pour ce Dieu qui est toute miséricorde vis-à-vis des humbles, finalement, voilà, pour que par les humbles puisse éclater toute sa gloire. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, donc Renaud, Agnès, une dernière peut-être question avant de rendre l'antenne. Une question posée par SMS, la voici. Alors, dans le devoir de s'asseoir, cher aux équipes Notre-Dame, quelle est la part de la prière ? C'est une question de Geneviève et Pierre.
Ah ben merci pour cette belle question. Ben oui, la prière, elle a une place importante dans notre devoir de s'asseoir. Vous vous rappelez brièvement d'abord pour nos auditeurs ce qu'est le devoir de s'asseoir. Le devoir de s'asseoir, c'est un temps privilégié que prend le couple chaque mois pour se poser, se regarder, s'écouter et surtout se parler en vérité et en profondeur sous le regard de Dieu. La place de la prière, elle est donc essentielle dans ce moment d'échange qu'elle introduit et conclut. Au début de ce temps en couple, de ce devoir de s'asseoir, ce peut être une prière spontanée, personnelle, de chacun des époux qui s'exprime à haute voix, et cette prière va permettre de rapprocher merveilleusement leur cœur et de les disposer à un échange fructueux dans un climat spirituel d'écoute, de charité et d'humilité. Et pour conclure ce temps de devoir de s'asseoir, où chacun aura écouté l'autre et se sera exprimé, où sans doute des résolutions auront été prises ensemble, quoi de plus naturel que de rendre grâce pour ce temps béni et pour notre conjoint. Voilà ce que pouvons vous dire sur l'importance de la prière dans le devoir de s'asseoir sous le regard de Dieu.
Eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup, Renaud et Agnès, pour cette émission, belle émission.
Merci à tous.
Au revoir.
Au revoir.